JFK, Made in America. Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre. Quatrième épisode, descendu à Dallas.
I am honored to have this invitation to address the annual meeting of the Dallas Citizens Council.
22 novembre 1963.
Joined by the members of the Dallas Assembly and pleased to have this opportunity to salute the Graduate Research Center of the Southwest.
Après sa parade dans les rues de la ville, JFK entame son troisième discours de la journée. Vous ne pourrez pas dire que Dallas ne vous aime pas, lui a glissé il y a une demi-heure Nelly Connolly, au moment où il passait dans la Lincoln présidentielle devant le Texas Book Depository. C'est un immeuble en briques rouges. Nous sommes maintenant au Trademark, il est 13h. Et non, vous n'y avez pas cru. Tout est faux. À part la citation de la femme du gouverneur du Texas. Pourtant, grâce à l'intelligence artificielle, le discours que JFK devait prononcer à ce moment-là a été reconstitué il y a 5 ans. N'était le mauvais ajustement des mots, on croirait entendre la vraie diction présidentielle. Sur le fond, JFK exalte la puissance américaine, une puissance qu'il souhaite mettre au service de la paix. C'est ainsi qu'on fabrique un slogan pour la présidentielle de 1964, qui n'aura pas lieu. Reprenons. 6 mois avant de tirer 3 balles, dont 2 mortelles contre JFK, Lee Harvey Oswald essaye de tuer le général Edwin Anderson Walker. Ce dernier s'est illustré sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée en 1953. Il a démissionné en 1961 et s'est présenté sans succès pour être gouverneur du Texas. Mais c'est John Connolly qui a gagné. Et en ce 22 novembre 1963, il est assis devant JFK dans la Lincoln présidentielle. Bref, il a gagné aussi sa place dans la ligne de mire d'Oswald.
Lee prend l'équivalent mental d'une grande goulée d'air et part en reconnaissance.
Mais ce 10 avril 1963, la cible, c'est bien le général Walker.
Il explore la ruelle qui longe l'arrière de la maison du général. 2 jours plus tard, après avoir jaugé les possibilités et les difficultés, il conclut qu'il a besoin d'un fusil et commande un Mannlicher Carcano 6,5 mm à Klein, une maison d'articles de sport de Chicago. Peut-il imaginer que cette carabine sera l'arme la plus célèbre de l'histoire ?
Ce qui inquiète Marina, c'est qu'elle voit apparaître dans son environnement des armes.
Anne James Chaton, auteur du récit « Vie et mort de l'homme qui tua John Fitzgerald Kennedy ».
Et c'est surtout à cet endroit-là qu'elle interroge son compagnon sur son comportement. Il sort plus la nuit, il va dans des endroits sans dire exactement ce qu'il fait. Et c'est cette question de à la fois de son emploi du temps et de l'apparition de l'arme dans leur quotidien. Mais elle ne sait rien de la question de Walker. D'ailleurs, elle ne maîtrise pas la langue. Elle parle en russe, les deux. Donc elle a une emprise très très fragile sur leur vie à ce moment-là. Et donc c'est plutôt des signes qui apparaissent dans leur quotidien qui fait qu'elle commence à s'interroger et à s'inquiéter de ce qu'est en train de devenir son mari, parce qu'elle voit bien que quand même il est en train de perdre la tête.
Le soir du 10 avril,
c'est Norman Mailer qui raconte.
Quand il arrive dans la petite rue, nous ignorons combien de temps il doit attendre, mais il peut finalement mettre en joue le général Walker, confortablement assis derrière son bureau dans une pièce bien éclairée, démunie de stores et de rideaux. Naturellement, nous ne savons pas si Oswald, par nervosité, va se promener dans les environs à plusieurs reprises en cachant son fusil dans les buissons, ou si son abri est si bien dissimulé qu'il peut attendre sans bouger la demi-heure environ qu'il faut pour que le général entre dans la pièce. Bien sûr, pour celui qui veut voir les actes d'Oswald ce soir-là comme une chorégraphie inspirée par le destin, il n'est pas impossible que le général soit déjà en place à son arrivée. Assis, parfaitement net dans le viseur de la lunette télescopique. Lee tire et se sauve sans prendre le temps de voir s'il a ou non atteint sa cible.
Lee Harvey Oswald prend sous le bras son arme et décampe. Des répliques de sa carabine, il en existe beaucoup aux États-Unis, comme celle détenue par le journaliste Max Holland.
Ce n'est pas la même arme, bien sûr. Je ne sais pas qui elle était. En fait, je l'ai acheté de troisième main. J'ai acheté ce fusil Mannlicher Carcano. J'ai mis un viseur japonais à $15 dessus. Mais c'est le même modèle. Il est lourd.
Ce que j'ai dans ma poche, c'est une balle de fusil Carcano qu'on insère dans le modèle de fusil qu'a utilisé Oswald. Donc oui, c'est le projectile. C'est une balle qui fait quand même, je dirais 7 cm de long. Hein. Le projectile en lui-même est assez impressionnant. Elle est très lourde. Et c'est un 7... c'est écrit dessus d'ailleurs.
Made in America.
Au culot. C'est un 7,65.
Un homme, une carabine, une balle, non, trois. Une voiture, deux hommes, deux femmes, une cible. Les planètes sont alignées. Tic-tac, tic-tac.
Je voudrais dire une chose à propos du cortège.
C'est le journaliste texan Darwin Payne qui raconte. Il a 23 ans à l'époque.
Il y avait une carte d'itinéraire qui a été publiée dans le Times Herald. La première fois que l'itinéraire du cortège a été publié, c'était dans l'édition du jeudi. Oswald avait été embauché et Oswald devait se rendre tôt à l'endroit où se trouvait Marina, à Irving, pour récupérer sa carabine. Et il ne savait pas que le cortège passerait devant le School Book Depository avant ce jour-là, la veille donc. Normalement, il allait à Irving, où se trouvait Marina, chez son amie Margaret Payne, ou Rose Payne, enfin bref. Et donc, il est allé là-bas pour supplier Marina de revenir avec lui. Parce qu'elle lui manquait, il l'aimait. Et elle aussi, elle l'aimait. Mais il la maltraitait, et donc elle était prête à divorcer. Plus tard, par la suite, elle a dit qu'elle l'aimait. Donc il a supplié, lui a dit, reviens, s'il te plaît, tout va s'arranger, on va fonder une famille, et je t'achèterai la machine à laver dont tu rêvais. Elle a refusé. Donc, il aurait passé la nuit avec elle, comme il aurait fait normalement le vendredi, mais là, il l'a fait le jeudi, ce soir-là, parce que le lendemain, il y avait le cortège de Kennedy qui passait. Il lui a laissé les quelques $100 qu'il avait sur la table, dans la chambre où il avait dormi avec elle. Il a retiré son alliance, il a laissé sur place. Ensuite, il est allé dans le garage, il a récupéré les différents éléments de la carabine et il les a mis dans ce grand sac. Mon sentiment, c'est que si Marina avait accepté de se remettre avec lui, il aurait renoncé à son projet d'assassinat.
Le matin du 22 novembre 1963, à environ 7h10 du matin, Linnie May Rendell était devant l'évier de sa cuisine et regardait par la fenêtre quand elle vit Lee Harvey Oswald marcher vers le garage adjacent à la cuisine. Elle entr'ouvrit la porte de derrière pour voir ce qu'il faisait et le vit aller de l'autre côté de la voiture de son frère, puis ouvrir la portière arrière droite de cette voiture. Elle cria donc à son frère, Buell Wesley Fraser, qu'Oswald l'attendait. Madame Rendell déclare qu'au moment où elle vit Oswald, il portait un long paquet enveloppé de papier marron et paraissant contenir quelque chose de lourd.
C'est maintenant le journaliste François Forestier qui poursuit le récit.
Le président s'apprête à monter dans la voiture. C'est une Lincoln Continental colossale, baptisée SS-100X. Elle a été fabriquée sur mesure par la Ford Motor Company et livrée en juin 1961. 3,5 tonnes d'acier, 6,5 mètres de longueur, blindage sur les côtés et le dessous, bizarre pour une décapotable, et un système de vérin électrique qui permet de régler la hauteur de la banquette arrière. Le chauffeur, Bill Greer, est sous les ordres de Roy Kellerman, qui a le titre de Special Agent in Charge et qui fait partie du Secret Service depuis 1941. Greer n'a pas le droit de bouger le petit doigt sans instruction de son supérieur. La chaîne de commandement est stricte. Le Secret Service a toujours été le parent pauvre de l'administration. À quoi bon ? Personne n'a pu empêcher l'assassinat du président McKinley en 1901, ni les tentatives avortées contre Franklin Roosevelt en 1912 et en 1933. ni même le complot contre Harry Truman en 1950. Depuis son accession au pouvoir, JFK est entouré par 7 gardes du corps en permanence. Sur ses ordres, ils seront tous dans la voiture suivante, sauf Greer et Kellerman, assis sur la banquette avant de la Lincoln. Déjà, on ouvre la porte de la SS 100X quand JFK se ravise à l'aéroport. Il se dirige vers les gens qui attendent, agite des foulards, des pancartes, des journaux. Il se met à serrer des mains. Jackie le suit, son bouquet de roses rouges sur le bras. La foule est en joie. Les commentateurs de la télé s'étranglent de plaisir. L'atmosphère est euphorique.
Our deadline was theoretically at 11:30.
Notre bouclage était prévu en principe à 11h30, mais nous l'avons retardé d'une heure pour pouvoir couvrir l'arrivée du cortège. Et j'étais en salle de rédaction comme beaucoup d'autres. Nous avions des reporters qui étaient positionnés à Lowfield et un autre au Trademark. Et ils m'appelaient pour me donner des informations. Et moi, je rédigeais l'article sur Jackie Kennedy. Donc j'étais installé derrière un bureau avec un téléphone et des écouteurs, ce qui me permettait d'avoir les deux mains libres pour taper à la machine, et beaucoup d'autres journalistes faisaient comme ça. C'est comme ça qu'on couvrait les événements à l'époque, et il n'y avait pas assez de temps pour que le journaliste présent sur place revienne au journal pour rédiger son article. Et donc moi j'étais chargé d'écrire le récit autour de Jackie Kennedy, et j'étais en train de travailler sur la première partie, celle sur l'étape de Lowfield de l'aéroport, et après ça, on aurait eu la partie Trademark, et ensuite j'allais fusionner les articles. Et j'étais en train de m'arracher les cheveux sur la partie Lowfield. J'avais obtenu des informations de Valais, c'était un journaliste qui était sur place, et j'avais du mal à trouver l'accroche. Et bon, j'ai fini par trouver. Et donc là, j'attendais les informations du deuxième reporter, celui qui était au Trademark. Et le rédacteur en chef était assis derrière son bureau, et tous les journalistes étaient debout autour de lui et suivaient le cortège qui était en train de passer. Et notre reporter qui était présent au bureau de police, il était justement en train de faire un compte-rendu. Et on était vraiment tous très contents que tout soit bien passé.
Rien n'est arrivé jusque-là de fâcheux dans cette journée, si ce n'est peut-être la lecture matinale par JFK de la presse locale.
En page 2 du Dallas Morning News, était publiée l'annonce d'un zélote nommé Bernard Weissmann. Elle occupait une pleine page, et le titre impétueux « Bienvenue à Dallas, Monsieur Kennedy » était suivi d'une série de questions, chacune introduite par le mot « Pourquoi ?». Chaque phrase laissait entendre que le président avait des sympathies communistes. Et la dernière question était « Pourquoi avez-vous abandonné la doctrine Monroe au profit de l'esprit de Moscou ?» La diatribe se terminait par « Monsieur Kennedy, en tant que citoyen de ces États-Unis d'Amérique, nous exigeons des réponses à ces questions, et nous les voulons maintenant. »
On était vraiment très contents que tout se soit bien passé.
Il y a eu soudain une détonation forte et sèche, un coup de feu. Après un moment, deux autres se sont très vite succédés.
Il y avait une telle ambiance de gala que j'ai cru que c'était des pétards ou un genre de célébration. J'ai entendu à la sono « Partons d'ici ». Et l'homme du service secret qui nous accompagnait, Rufus Youngblood, je crois, s'est jeté sur Lyndon, à l'avant de la voiture, l'a poussé sur le sol et a dit « Baissez-vous ».
Soldier blue, which I think is such a stunning combination, and the black boot.
À la télévision au Texas, une émission destinée à un auditorat féminin détaille les mérites des fermetures éclair cachées dans une veste d'hiver. Puis soudain, le programme s'interrompt avec une drôle de zébrure à l'écran.
Et puis tout à coup, la radio de la police a dit qu'ils envoyaient des voitures de police sur place en code 3, sirènes et phares allumés, il a été touché.
Tous les véhicules ont été dégagés de l'entrée des urgences de l'hôpital Parkland et toutes les équipes d'urgence ont quitté Industrial Boulevard.
J'ai sursauté, j'étais pas le seul, j'ai dit « mais comment ça a touché ?» Et en moi-même, je me suis dit, comme Adlai Stevenson, qui avait été frappé avec une pancarte. J'ai dit, alors avec quoi? Avec une pancarte? Non.
He's been hit.
Donc il a été touché. Et cette fois-ci, j'avais compris. Et à ce moment-là, le rédacteur en chef m'a envoyé sur place. Il m'a dit, laisse tomber Jackie, tu oublies complètement Jackie, tu vas à Dealey Plaza ou au pont de chemin de fer. Ils appelaient ça le Triple Underpass. Et c'était Dealey Plaza, en fait. Et donc, il a envoyé quelqu'un avec moi, Paul Rosenfeld. Donc, on est partis tous les deux en courant. J'avais mon bloc-notes que j'ai toujours, vous voyez ici. On a couru littéralement et on a marché aussi. Enfin, on a couru le plus vite possible jusqu'à Dealey Plaza.
Bon après-midi, mesdames et messieurs. Pardonnez-moi d'être très soufflé, mais il y a 10 ou 15 minutes environ, un événement tragique, selon les toutes dernières informations, s'est produit dans la ville de Dallas. Permettez-moi de vous lire ce... Vous m'excuserez si je suis soufflé. Ce communiqué de presse en provenance de Dallas. Le président Kennedy et le gouverneur John Connally ont succombé sous les balles d'un assassin dans le centre de Dallas. Ils se trouvaient dans une voiture décapotée quand les coups de feu ont été tirés. Le président, dont le corps s'est affaissé dans les bras de sa femme Jacqueline, est transporté d'urgence à l'hôpital Parkland. Excusez-moi, je vais donner quelques instructions sur le déroulé des prochaines minutes. Bobby, on enregistre ça, s'il te plaît, avec l'interview des témoins. Et ça, c'est une des 2 millions de copies qui se sont arrachées auprès de United Press à Dallas. Le président Kennedy a été abattu à Dallas, au Texas. Madame Kennedy s'est redressée d'un bond, elle a pris le président dans ses bras, elle pleurait. Nous sommes dans Houston Street, entre Main Street et la rue parallèle. Jerry, approchez, s'il vous plaît. On regardait passer le président, l'applaudissant, eu égard à sa fonction de président des États-Unis. Et quand il a tourné à gauche, 2 ou 3 coups de feu ont retenti. On a cru que c'était des pétards, enfin ce que je croyais, jusqu'au dernier coup de feu. Quand on a entendu des gens crier, on s'est précipité, à temps pour voir un policier debout derrière une borne d'incendie. Il regardait autour de lui comme s'il cherchait une cible, quelqu'un sur qui tirer. Je voudrais vous rappeler qu'au fur et à mesure que les nouvelles arrivent dans la salle de presse, nous serons à l'antenne. Nous recevrons nos témoins oculaires ici dans un instant. Vicky, tu peux voir s'ils ont besoin d'un café? Ces gens sont terriblement secoués, ils sont passés très près. Ils étaient dans les lignes de mire. Je me souviens, Jay, tu as dit que tu croyais que c'était un pétard ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a eu un premier tir. Puis une ou 2 secondes plus tard, un autre tir, une seconde de silence et le troisième coup de feu. Et tu as dit, on l'a tué. Non, j'ai dit, bon sang, c'est un coup de feu. Et on s'est tous les deux retournés. Bobby, tu pourrais te placer là pour filmer, c'est un bon angle. Tu nous fais un panoramique, puis on avance et on prend le preneur de son au passage.
C'était à 4 pâtés de maison et quelques. Et je suis arrivé là en 8 minutes. 8 minutes plus tard, j'étais sur place. Autant dire, je suis plutôt en forme. Bref, je suis arrivé beaucoup plus vite que qu'on pourrait l'imaginer. Et sur place, c'était le chaos. Les gens étaient horrifiés. On ne savait pas exactement ce qui s'était passé. On savait qu'il y avait des coups de feu qui avaient été tirés. Et ceux qui étaient suffisamment près de la scène savaient que le président avait été touché. Et sans doute quelqu'un d'autre, peut-être un homme des services secrets. Sans réaliser qu'il s'agissait en fait de John Connally, le gouverneur du Texas. Donc le plus important pour moi, et donc on s'est séparés avec Paul pour essayer de trouver des gens, un maximum de gens dans cette confusion. Les gens erraient, les gens avaient l'air perdus, complètement abasourdis, les gens pleuraient. La première chose à faire dans ce genre de circonstances, je me suis dit, c'est mettre la main sur un policier qui saurait ce qui s'était passé. J'ai essayé d'entrer dans le bâtiment parce que toute l'attention était concentrée sur le dépôt des scolaires. Mais l'entrée était gardée. Un policier était à l'entrée. Il m'a dit, non, on passe pas. Il a dit qu'il laisserait entrer personne. Et en fait, il y avait 3 journalistes qui avaient réussi à entrer très vite, dès que ça s'est produit, parce qu'ils cherchaient un téléphone. Et 2 de ces journalistes, Pierce Allman, qui travaillait à la radio, et Ken Biffel, qui venait de Fort Worth Press, ils ont réussi à entrer avant d'être stoppés. Et donc, ils ont traversé le bâtiment avec les enquêteurs, avec les officiers de police, à la recherche des tireurs. Et la plupart des gens regardaient vers le dernier étage, le 6e étage, parce qu'ils pensaient que les coups de feu étaient partis de là. Pour moi, c'était le coup d'un manifestant ultra-conservateur, comme ceux que j'avais vus, par exemple, au meeting de Stevenson. C'était lui qui avait fait le coup. J'ai pensé qu'il devait être plusieurs à se cacher à l'intérieur du bâtiment, mais j'ai pas pu entrer, parce que l'officier de police m'a pas laissé entrer. Donc j'ai continué à parler avec les gens qui étaient là, sur place.
Procès verbal de la police de Dallas. Témoignage sur le tireur présumé.
Je l'ai vu avant l'arrivée de la voiture du président. Il était juste assis là-haut et regardait en bas, paraissant attendre de voir le président. Je ne lui ai rien trouvé de particulier. C'était un blanc d'une trentaine d'années, mince, d'aspect agréable, et qui devait peser dans les 83 à 88 kilos. Il avait des vêtements de couleur claire, mais sûrement pas un costume. J'ai regardé la voiture du président quand elle a tourné à gauche au coin de la rue, et alors j'ai vu cet homme que j'ai décrit à la fenêtre qui visait avec un fusil à longue portée. Ensuite, cet homme a laissé tomber l'arme le long de son corps et a reculé hors de vue. Il ne paraissait pas du tout pressé.
Un homme blanc d'une trentaine d'années, 80 kilos, avec une Winchester 33.
Sur les ondes des voitures de police, le mot « rifle » revient deux fois. C'est la carabine d'Oswald. Le présentateur vedette Walter Cronkite, sur la chaîne CBS, les lunettes de guingois et la cravate bien ajustée, en bras de chemise devant la rédaction de sa chaîne, essaye de masquer ses émotions alors qu'il énumère les faits portés à sa connaissance.
Madame Kennedy se trouvait dans la voiture avec le président Kennedy. Il s'est effondré sur ses genoux. Il semble qu'elle tienne le coup. Elle est sidérée, mais pas encore en état de choc. On l'a vu pleurer dans les couloirs de l'hôpital.
Je suis sur le campus de Yale,
le journaliste Philippe Labro,
pour un documentaire sur ce que c'est qu'un campus américain. Et il est midi, je suis sur le campus en train d'interroger un professeur de lettres, et je vois arriver du fond du campus un môme qui agite ses bras en hurlant quelque chose que je ne comprends pas. Et peu à peu, on comprend, à mesure qu'il arrive en courant vers nous, « The president has been shot, the president has been shot !» On a tiré sur le président. Bon, j'arrête toute l'émission, je laisse tomber l'équipe technique, il m'en voudra toute sa vie d'ailleurs, je prends même la voiture de location, enfin je joue le voyou, et je fous le camp tout de suite à New York pour prendre un avion le soir même et arriver à Dallas le lendemain matin. Voilà. Donc, pendant ce temps, pendant ce court moment, j'ai pu suivre en voiture, depuis Yale jusqu'à New York, comment le pays apprenait petit à petit. On est à l'époque, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Donc apprenait petit à petit cette tragédie, comment on voyait peu à peu dans certains établissements qu'on descendait les drapeaux, les gens s'arrêtaient au bord de l'autoroute. On voyait, j'ai même vu, c'est extraordinaire, un gros, tu sais, ces énormes camionneurs, ces truck drivers, qui s'étaient arrêtés, descendus de son camion, de sa cabine de conduite, et s'étaient mis pratiquement à genoux sur le bord de l'autoroute et pleurait. Donc voilà, il y a peu à peu cette prise de conscience d'une tragédie et alimentée aussi par une peur et une angoisse qui a tiré. Est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale? Parce qu'il y a aussi le soupçon que ça pourrait être les Soviétiques. On est toujours dans la guerre froide. Hein. Enfin, elle s'est calmée, la guerre froide, grâce au rôle formidable qu'a joué Kennedy pendant la crise des missiles de Cuba, où là, il a réparé toutes les erreurs précédentes. Il y a un climat d'anxiété, de sidération même, qui traverse les rues, les paysages.
Walter Cronkite montre aux téléspectateurs une photo prise quelques minutes avant les coups de feu.
Assassination attempt is here. Let's see if we can get a real close-up of that picture. It has just arrived.
On y voit Jacques et Jackie ainsi que le couple Connelly souriant. Le soleil brille. Il est presque midi.
Connelly and Governor Connelly, you cannot see behind Mrs. Connelly.
De sa plume acérée, l'historien Thomas Reeves éclaire la scène d'une lumière crue.
Il se peut que Kennedy ait quand même payé le prix de ses appétits sexuels. Fin septembre 1963, lors d'un voyage sur la côte ouest, il se déchira un muscle de l'aine en tombant dans une piscine où l'avait poussé une jeune femme qu'il serrait d'un peu trop près. La douleur était telle que les médecins de la Maison Blanche prescrivirent le port d'un corset de toile allant de l'épaule au bas-ventre. Ajouté à celui qui permettait de soulager ses douleurs dorsales, il représentait une contrainte d'autant plus pénible que Kennedy devait être aussi à l'aise que possible pendant les épuisantes journées de la future campagne présidentielle. Ainsi, lors de l'attentat de Dallas, ce furent les deux corsets qui l'empêchèrent de se courber par réflexe de survie, lorsque la première balle tirée par Lee Harvey Oswald l'atteignit au cou. Bien que grave, la blessure n'était pas mortelle, mais Kennedy ne put bouger, formant ainsi une cible idéale pour la seconde balle, tirée en pleine tête.
Une carabine a été aperçue au 5e ou au 6e étage, rapporte un journaliste sur place. Et puis soudain, la nouvelle officielle tombe. La voix de Walter Cronkite tombe, elle aussi. La gorge nouée, le présentateur vedette de CBS ravale un sanglot et annonce que le vice-président Lyndon Johnson va prêter serment et qu'il sera le 36e président des États-Unis. Le 22 novembre 1963, où étiez-vous ?
J'étais en classe de gym au collège. Et une fois par mois, le vendredi, on avait un cours de danse de salon au lieu de la gymnastique. Alors je dansais avec une fille, elle était plus grande que moi. Je me souviens qu'elle était très raide, difficile à bouger. Et tout à coup, on a entendu la voix du proviseur à travers les haut-parleurs. Un ton très grave. Les enseignants avaient été prévenus avant. Une note leur avait été transmise. Mais le temps que tout le monde se calme pour l'entendre, il avait terminé l'annonce. Donc personne ne savait ce qui s'était passé. J'avais l'impression qu'une guerre nucléaire avait éclaté. J'avais 12 ans.
L'école a renvoyé les enfants à la maison et je me souviens que, en rentrant à la maison, je me suis arrêtée chez une amie et la mère a ouvert la porte et elle pleurait. Et j'ai dit, vous savez quoi, JFK a été tué. Je suis désolée, c'est l'émotion. Et elle était en larmes. Et c'était comme si tout tournait au ralenti parce que les gens étaient sonnés. On avait du mal à y croire. Avec ma mère, on s'est dit, mais on l'a vu il y a 12 heures à peine. Comment c'est possible?
Ça venait d'où? Ils l'ont tué. Vous avez vu d'où ça venait? Il y a un canon de fusil là-haut. Je ne vois rien. Où? La fenêtre ouverte là-haut. Le canon de fusil à la deuxième fenêtre en partant du haut du côté droit.
J'étais au collège quand c'est arrivé. Je devais être en sixième. Et je me souviens de l'annonce diffusée par les haut-parleurs de l'école disant que le président Kennedy avait été abattu à Dallas, qu'il était escorté à l'hôpital et que les classes s'arrêtaient pour la journée.
And they did. And so then my memory of those events
is like everybody else. C'est le même que tout le monde. On est rentré à la maison et on s'est collé devant la télé. C'était le premier événement d'actualité pour lequel on a interrompu tous les autres programmes.
Tout ce dont je me souviens, c'est que tout le monde était réuni autour de notre poste de télévision noir et blanc. Je ne me souviens pas exactement de quoi il était question, ni de telle ou telle personne qui aurait dit ceci ou cela. J'ai peut-être entendu le mot Kennedy, je ne m'en souviens pas. Mais ce dont je me souviens, c'est de cette image. Le téléviseur, au milieu du salon, tout le monde assis autour, en train de regarder. C'est le seul souvenir que j'ai vraiment du 22 novembre 1963. J'avais 5 ans.
Cette Amérique, le 22 novembre 63, elle est passée de l'innocence au doute. Moi, quand j'avais demandé à Arthur Penn de m'écrire la préface d'un livre que j'écrivais sur l'affaire JFK, c'est comme ça qu'il avait titré sa préface, « Nous étions des enfants ».
Et vous, JFK, à qui pensez-vous à l'instant où la culasse de la carabine d'Oswald fait clic-clac? À votre mère Rose? Rose, qui a eu 9 enfants.
Il a beaucoup de courage, il a fait des choses dans la guerre, il a été décoré.
Oui.
Et il travaille beaucoup. il a toujours été intéressé.
Oui, madame.
Dans l'histoire.
Oui, madame, annonce Léon Zitrone dans un entretien pour la télévision française. Oui.
Et dans la littérature, il a écrit deux ou trois livres.
Oui.
Pour lesquels il a reçu le Pulitzer Prize.
C'est et l'un des plus grands prix littéraires.
Il a beaucoup d'initiatives et il s'intéresse beaucoup aux pauvres et aux âgés.
Rose, l'enfant que vous n'avez jamais pris dans vos bras, s'en va en plein soleil, un jour de novembre à Dallas, Texas. JFK, Dead in America. Et puis soudain, Norman Mailer sort les griffes au bout de 350 pages contre le personnage principal de son livre, Lee Harvey Oswald.
On souffre un peu d'imaginer ce fils à maman, à la fois gâté et délaissé, ce Hamlet d'une Gertrude trop souvent mortifiée, ayant rêvé de la gloire immense des Marines pour accompagner son marxisme, désormais réduit au niveau spirituel d'un petit merdeux. À la Nouvelle-Orléans, il avait bien commencé à s'endurcir, mais sûrement pas assez pour subir le genre d'épreuves qui l'attendaient dans les Marines. Il a dû se sentir féminisé par ses échecs. Répétons-le, la mentalité des années 50 avait un siècle d'écart avec les concepts actuellement prédominants. En ce temps-là, pour un homme, être faible, c'était se percevoir comme une femme. Et d'après le code masculin des années 50, c'était intolérable. Cet ensemble de valeurs ne pouvait guère aider Oswald à équilibrer ses conflits intérieurs. Hystérique et timide, il avait néanmoins un ego prêt à juger le monde qui l'entourait. La forme que cela prenait chez lui, c'était de se montrer calme, réservé, sardonique, chaque fois qu'il le pouvait. Or, ses 9 premiers mois ne lui en ont pas vraiment donné l'occasion. Powers raconte que sur les navires les emmenant au Japon, après des cours d'opérateur radar à Jacksonville en Floride et à Kissler, près de Biloxi dans le Mississippi, Lee jouait toute la journée aux échecs avec lui et se lançait quasiment dans une danse guerrière quand il gagnait. « Regarde ça, j'ai gagné, je t'ai battu. »
Le peuple de Dallas pleure, les ondes des voitures de police pleurent, elles aussi. Retrouvons le journaliste texan Darwin Payne, il a 23 ans, il couvre l'affaire du siècle. Il est au pied de l'immeuble d'où a tiré Oswald.
Et j'ai vu un groupe de femmes. Elles étaient peut-être 4 ou 5. Et elles avaient l'air de savoir quelque chose parce qu'elles étaient, elles étaient en larmes. Et il s'est avéré qu'elles travaillaient avec Abraham Zapruder. Et elles ont dit, notre patron, elles ont dit, elles savaient que le président avait été touché. Ils avaient vu du sang. Et la plupart des gens, d'ailleurs, avaient vu ce qui s'était passé. Et donc, elles nous ont dit, notre patron, il a des images. Et j'ai dit, je veux bien aller le voir. Vous pouvez me conduire à lui? Oui, bien sûr, il est dans le bâtiment voisin. Donc, je les ai suivis en me disant que si vraiment il avait filmé la scène, qu'il avait décrite avec une caméra Bell et Howell, c'était quelque chose de très important. Donc nous sommes allés à son bureau, qui était au 4e étage, dans le bâtiment d'à côté, il n'était pas là, il n'était pas encore arrivé, je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Bref, il est arrivé, Walter Cronkite était à l'antenne, le téléviseur était allumé. Donc je me suis assis avec eux, j'ai regardé la télévision et au bout d'un moment, entre un homme en larmes, avec une monture de lunettes en corne, et c'était Abraham Zapruder.
Abe est avaché sur son bureau.
Abe, c'est le diminutif d'Abraham Zapruder.
Les informations passent à la télévision. La caméra est posée sur le meuble de classement, injustement immobile. Il trouve un souffle quelque part dans sa poitrine. Darwin Payne, du Times Herald, est dans son bureau, assis face à lui, parlant avec ses mains. Payne va l'aider à faire développer le film, explique-t-il. C'est dire combien celui-ci est important. Mais Abe arrive à peine à parler. si ce n'est pour dire qu'il sait que Kennedy est mort.
Et Walter Cronkite était à la télévision, il a annoncé que le président avait été touché. On ne sait pas si c'est grave. Le président est à l'hôpital Parkland, et là, Zapruder a dit non, il se trompe, je sais qu'il est mort.
Il sait qu'il est mort. Les présentateurs du journal télévisé peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent évoquer d'un ton plein d'espoir des blessures, voire des blessures sérieuses. Mais Abe sait que Kennedy est mort. Il l'a vu à travers le viseur.
Il a vu le meurtre à travers l'objectif, donc il savait que le président était mort.
Je l'ai vu, il a été atteint par la balle à l'arrière de la tête et sa tête a littéralement explosé comme un pétard. Il ne peut pas être vivant. Et pour moi, la question était réglée puisque Zapruder avait l'air très certain de ce qu'il avançait et ce n'est effectivement que 20 minutes plus tard que Cronkite a annoncé son décès.
Le président Kennedy est mort à 13h, heure locale.
Alexandra est la petite fille d'Abraham Zapruder.
Mon grand-père a veillé à conserver le film très soigneusement parce que, immédiatement après, il y avait un autre reporter du Dallas Times Herald, Darwin Payne, exactement. Oui, vous allez le rencontrer. Parfait. Donc, il avait aussi rencontré des collègues de mon grand-père et il les interrogeait. Alors, tout de suite, on a deux journalistes dans une rédaction qui commencent à se dire comment mettre la main sur ce truc, combien d'argent, comment s'y prendre. Ils ont essayé de faire développer le film. Ils sont d'abord allés voir une chaîne de télévision où mon grand-père avait été interviewé. Ensuite, c'est tellement intéressant de regarder cette interview. Elle contient tellement de choses.
Un homme vient d'entrer dans notre studio, je le rencontre pour la première fois, vous aussi. Vous êtes sur WFATV à Dallas. Puis-je avoir votre nom, monsieur? Je m'appelle Abraham Zapruder. Zapruder, c'est ça? Oui, monsieur. Alors racontez-nous votre histoire, monsieur. Je suis sorti, je dirais, une demi-heure plus tôt pour essayer de trouver un bon emplacement pour filmer. Et j'ai trouvé un endroit, un de ces blocs de béton qu'il y a à côté du parc, près du passage souterrain. Donc je suis monté sur le bloc. Il y avait une fille de mon bureau qui était juste derrière moi. Et pendant que j'étais en train de filmer, au moment où le président était en train de descendre Houston Street, à mi-chemin de son itinéraire à peu près, j'ai entendu un coup de feu. Il s'est effondré sur le côté, comme ça. Ensuite, j'ai entendu une ou deux détonations, je ne sais pas, une ou deux, je ne suis pas sûre. Et là, j'ai vu sa tête pratiquement ouverte, le sang, tout sortait. J'ai continué à filmer, c'est tout. Excusez-moi, je me sens malade à nouveau. Je pense que ceci exprime assez bien ce que tout le monde ressent. Vous avez le film dans votre caméra? Oui, oui, je l'ai apporté. On va essayer de le faire développer, l'avoir aussi vite que possible. Pour l'instant, on a une cassette vidéo.
Et au final, mon grand-père a remis deux copies du film au service secret. Ma tante m'a raconté que quand il est rentré à la maison, ma grand-mère, ma tante et mon oncle étaient là. Ils l'avaient attendu toute la journée. Ils savaient vaguement qu'il avait fait un film. Il leur avait dit à demi-mot. Alors mon grand-père a sorti le projecteur, installé la bobine et il a projeté le film pour ma famille comme si c'était un vrai film, parce que c'en était un vrai film.
Abe s'apprête à montrer le film aux agents des services secrets. Les lumières au plafond sont éteintes. Seule la lumière blanche du projecteur dessine un carré, petit mais net. Abe se tient à côté et demande « Êtes-vous prêts, messieurs ?»« Prêts, monsieur Zapruder. »
Le lendemain, il a passé un accord avec le magazine Life. Il se rend dans les locaux de Life. Il découvre des dizaines de journalistes surexcités qui s'époumonnent pour le convaincre. Ils ont signé un accord. Life a versé 150 000 dollars pour l'intégralité des droits sur le film de Zapruder. Et mon grand-père en a donné 25 000 à la veuve de J.D. Tippett, le policier tué par Oswald dans la salle de cinéma.
Tout le monde a oublié dans cette histoire le policier J.D. Tippett, Jefferson Davis Tippett, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il a échappé aux balles des Allemands pendant les combats en Europe. Il n'échappe pas aux quatre balles tirées d'un pistolet par Oswald. Il est 13h10. Oswald 2, reste du monde 0.
Les bobines sur le projecteur 8 mm cliquettent légèrement à contre-temps, tournant en rond encore et encore, indéfiniment. L'écran de fortune s'est empli de noir. Des rayures s'animent en travers du mur, des éclairs lumineux qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Puis soudain, ça commence. Arrivent les flics à moto, qui s'engagent dans Helm, menant le cortège. Le soleil brille. Arrive le président.
Il filme le trajet de la limousine.
C'est Jean-Baptiste Torel, le spécialiste du film de Zapruder, lancé dans une seule phrase d'explication.
Et ce petit film, qui commence avec l'arrivée sur Elm Street par la gauche du cadre de la limousine, qui s'achève au moment où la limousine part précipitamment parce que quelque chose de grave s'est passé et s'enfuit sous le tunnel, ce petit film dure 26 secondes. Voilà. Et ces 26 secondes sont composées de 477 photogrammes.
Pendant ce temps-là, Oswald court toujours sur les ondes de la police de Dallas qui répète son signalement. Darwin Penn continue son apprentissage de journaliste dans le chaos de Dallas.
Je retournais au dépôt de livres scolaires après être parti avec Zapruder. J'ai traîné dehors. J'ai interviewé les inspecteurs qui descendaient du 6e. Il y en a un qui transportait la carabine dans un grand sac. Et il y avait un photographe qui interrogeait quelqu'un et puis l'autre qui descendait avec les restes du repas qu'ils avaient retrouvé, je veux dire, ce qu'Oswald avait mangé. Et nous les avons interviewés. Il y avait l'officier de police qui s'appelait Monsieur Tippit, Gilles Tippit, qui avait été abattu. Beaucoup de reporters s'étaient rendus à l'hôpital où se trouvait Kennedy. D'autres s'étaient rendus sur les lieux où on avait capturé Oswald et d'où il avait été emmené au poste de police. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens sur place au dépôt de livres. Et la police nous a surpris. Un enquêteur nous a proposé de visiter les lieux, nous emmener jusqu'à la planque du tireur. Donc on est allé. J'étais avec un groupe d'environ 12 personnes. On est monté au 6e, donc du dépôt de livres scolaires. Et il nous a montré la fameuse fenêtre.
Nous n'avons
touché à rien, mais on voyait les douilles. On a vu aussi les caisses où le tireur avait installé ses affaires et d'où il avait pris appui pour tirer. Et on a regardé par la fenêtre pour voir comment il s'était pris pour tirer. Ça n'avait pas l'air très difficile. Bon, d'autres pensaient que c'était compliqué, mais en fait, non. Mais après ça, donc je suis allé au bureau. Il devait être 5 heures, je pense. Et le rédacteur en chef, Kenneth Smart, qui était quelqu'un de très bien, m'a dit « J'ai une adresse pour toi. C'est là que vit Oswald. »
Donc
j'ai pris ma voiture, j'ai roulé jusqu'au 1026 Northern Beckley, c'était une petite maison, et donc là il y avait à peu près 17 locataires qui étaient des rumeurs, à ne pas confondre avec des rumeurs, et donc ils louaient les chambres à cet endroit-là. Et j'ai commencé à les interviewer pour essayer de mieux comprendre qui était Oswald. Nous n'avions pas son nom, Oswald, à ce moment-là. Il s'était fait connaître sur place sous le nom de O.H. Lee. Il vivait sous un faux nom. Et plus tard, ils se sont rendus compte que c'était Oswald, son nom. J'y reviendrai. Et donc, Oswald, en fait, il était là depuis 6 semaines, simplement, parce qu'il s'était séparé de Marina, qui était partie vivre de son côté à Irving pour être avec Bruce Payne, parce qu'il s'était séparé. Et donc, j'ai parlé au propriétaire de cette pension. Il m'a dit que c'était un locataire très discret. Il n'avait pas le nom, d'ailleurs, parce qu'il a dit O.H. Lee, alors que c'était Oswald à l'envers. En fait, bref. Il n'avait pas son nom, mais il a dit que c'était quelqu'un qui ne posait pas de problème, qui était très calme, très tranquille. Après, je suis allée dans sa chambre. C'était une chambre d'environ 3,50 m sur 5, sans accès extérieur. Elle était à l'intérieur de la maison, elle avait une porte vitrée. La police et le procureur adjoint, Bill Alexander, avaient déjà inspecté la chambre. Ils l'avaient nettoyée en grande partie. Donc, il n'y avait pas grand-chose à voir, à part un petit lit étroit et quelques objets qui avaient été laissés là.
Et puis, soudain,
C'est comme si la vie reprenait à Dallas, figée dans l'horreur, la stupeur et la douleur.
Il fut conduit au quartier général de la police.
L'épicentre de cette activité fiévreuse, c'est l'hôtel de ville qui sert aussi de commissariat.
Des journalistes attendaient, au cas où on amènerait un suspect de l'assassinat du président. On lui demanda s'il voulait se couvrir le visage avant d'entrer. « Pourquoi me couvrir le visage ?» répondait-il. « Je n'ai rien fait dont je puisse avoir honte. »
En direct, à la télévision, celle-là même qui a annoncé à la mi-journée la mort de JFK, apparaît Lee Harvey Oswald. Cheveux noirs et bouriffés, les yeux dans le vague, vêtu d'un t-shirt blanc collant V et d'une veste noire. Cerné par les journalistes qui lui demandent s'il a tué le président. « Non !» J'ai tiré sur personne. Il commence même par se plaindre de ne pas avoir d'avocat. Un journaliste lui lance « Êtes-vous un menteur ?» Réponse « Non, je ne comprends pas de quoi il est question. »« Oui, dit-il, je travaille dans le building. Non, je n'ai pas tiré, je n'ai pas tué le président. On m'a arrêté parce que j'ai séjourné en Union soviétique. » Puis vient sa fameuse tirade. « I'm a patsy, je suis un pigeon. » Mon œil. Tout ça en direct à la télévision.
This is Ed Hogan of WFAA Television in Dallas, Texas. We are standing on the grounds of Parkland Hospital.
Voici maintenant un reporter à l'extérieur de l'hôpital Parkland, là où est décédé JFK. Le reporter tend son micro au badaud.
À l'hôpital Parkland, la confusion s'est installée. Dans la salle d'opération, on a déclaré que le président était mort à 13h. Mais Lyndon Johnson, croyant très sérieusement que l'entourage de l'ancien président et ou du nouveau pourrait à nouveau courir un grand danger, a décidé qu'ils devaient tous revenir en hâte à Love Field, embarquer sur Air Force One et quitter Dallas avant que l'annonce de la mort soit rendue publique. Qui savait ce qui se cachait derrière l'attentat réussi contre la présidence? Les coups de feu de la place Dilly avaient parlé très fort.
I don't know why anybody would want to kill him.
Le journaliste Philippe Labro se souvient très bien. Il prend un avion.
C'est l'avion le plus silencieux dans lequel j'ai jamais voyagé. Tous les gens lisaient le journal.
Nous sommes maintenant le samedi 24 novembre 1963.
Il y a une photo très connue d'ailleurs, je crois, où on voit, je crois pas, je l'ai même publié dans mon bouquin sur le président, où on voit tout le monde en train d'ouvrir la une du journal avec l'attentat. Et la question posée, c'est qui a fait ça et pourquoi?
Ce pouvait être la voix du mouvement John Birch, de la mafia, des Cubains pro-castristes, des Cubains anti-castristes. Ou bien, le plus terrible et le plus dangereux, Dieu fasse qu'il n'en soit pas ainsi, une phase d'un complot tramé par les Russes pour déclencher la Troisième Guerre mondiale.
Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead.
Le taxi dans lequel je monte en sortant de l'avion, je me mets à parler avec lui, c'est vraiment un vrai Texan, hein, tatoué, costaud, aux flaquettes. Je le vois de dos, mais quand même, hein, je vois dans le rétroviseur ses yeux. Et je lui dis, quelle tragédie quand même. Et il me répond, it was about time, avec l'accent du Texan, ce qui veut dire, il était grand temps. Tout d'un coup, je me dis, mais où suis-je? Ben, je suis à Dallas. Je vais directement au commissariat de police.
Sur place, Philippe Labro joue des coudes avec les journalistes locaux qui tiennent l'antenne avec force description d'hommes en armes. Darwin Penn est là lui aussi.
Donc Oswald a été transféré au poste de police. Les journalistes sont venus du monde entier, vraiment. Moi, j'ai pris l'ascenseur pour monter au troisième étage. C'était l'étage des bureaux de la criminelle, des inspecteurs. Il n'y avait personne là-haut. Enfin, je veux dire, il y avait des gens, bien sûr, plein de gens à l'étage, mais pas de sécurité. Donc, je suis entré, c'était rempli de journalistes, de tout un tas de gens. Et quant à Oswald, il était détenu dans une cellule de la police, une cellule temporaire qui était au cinquième étage.
Bah, le commissariat de police de Dallas, c'est une petite boutique, c'est un petit truc. Et on est je sais pas, au moins 300 journalistes déjà là. Il y a les télévisions partout, les câbles partout. J'étais là pour voir comment ça se passait, pour essayer de me mettre au premier rang, pour voir descendre Oswald, qui descendait de sa cellule, accompagné par le célèbre capitaine Fritz, Will Fritz, avec son chapeau, ses bottes, ils sont tous en chapeau et en bottes, hein, on est au Texas, hein, avec le nez tout rouge parce qu'il buvait beaucoup de bourbon, monsieur Fritz, et qui amène Oswald dans la salle d'interrogatoire où il n'y a pas de magnétophone, où il n'y a pas de sténographie, c'est inimaginable. On est en train d'interroger le présumé coupable du meurtre d'un président des États-Unis, comme si c'était un vol à la tire dans le marché. Hein. Donc il y a un amateurisme qui affleure, là on sent qu'ils sont un peu paumés, un peu perdus, d'autant plus qu'il y a cette masse. Parce que la télévision à l'époque, c'est des gros câbles, c'est des grosses machines, et beaucoup de techniciens. On se bat pratiquement pour être au premier rang, pour voir passer, ce que je fais d'ailleurs, le visage de ce garçon qui a mon âge, qui a 24 ans, et qui, lorsque la première fois que je le vois de très très près, comme je suis en train de vous voir vous, me paraît être empreint d'une sorte de certitude qu'il est l'homme le plus célèbre du monde en ce moment et qu'il en jouit. Et qu'il refuse évidemment toute culpabilité, qu'il nie tout, qu'il parle de façon plutôt articulée, hein, il n'est pas paumé. Il a le visage un peu contusionné, parce qu'il a pris des coups quand il a été arrêté dans la salle de cinéma quelques heures plus tôt. Et tout ce qu'on sait, c'est quand il sort de là, qu'il remonte dans sa cellule, c'est qu'il aura nié tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'a jamais donné une seule réponse positive aux questions maladroites que lui posait Fritz, avec quand même le FBI qui était là, mais le FBI n'était pas censé interférer. Tout ça dépend de la police locale. Hein. Les fédéraux, ils étaient dans une situation délicate.
Le chef de la police a demandé quand aurait lieu le transfèrement, c'est-à-dire quand Oswald serait transféré du poste de police à la prison du comté. Je me souviens que le chef de police Kerry était au milieu du groupe à un moment donné, juste dans le couloir, était en train de parler. Donc un journaliste avait posé son carnet de notes sur son dos. Il prenait des notes en prenant appui sur son dos. Et il y avait aussi un photographe qui était là et qui, lui, s'est allongé par terre. Et il s'est faufilé entre ses jambes, entre les jambes du chef de police. Il a essayé de cadrer des plans dans cette position, histoire d'avoir un angle un peu différent. Voilà, il s'est passé ce genre de choses. Et en fait, le chef de la police n'a rien dit, il a accepté.
Tout ça était passionnant et avec, de temps en temps, des surprises, comme par exemple, je vois un homme qui ressemble absolument pas à des journalistes, qui a un petit chapeau sur la tête, un peu les cheveux gominés, un peu gras, habillé comme un peu, comme ce qu'il était, un tenancier de boîte, qui est le célèbre Jack Ruby, et qui entend mon accent français, qui me dit « You're French !» J'ai dit « Oui, ah, Folie Bergère !» Pour lui, la France était « Folie Bergère !» J'ai dit, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je suis là, je connais des copains. Il connaissait tous les flics. Il avait ses entrées, ses sorties. Il faisait ce qu'il voulait. Dans une conférence de presse, dans quelques temps auparavant, il était même intervenu pour corriger ce que racontait le procureur. Incroyable personnage dont tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ben, il fout là, c'est qu'il était dans un endroit ouvert, avec des policiers qui l'appelaient Jack, et il faisait ce qu'il voulait. Pas grand-chose. En fait, il était là, prenait des notes, il m'a donné sa carte de visite.
Oswald est extrait de sa cellule, encadré par des policiers. Il va passer sa première nuit en prison, et puis soudain...
Un homme en chapeau se précipite, le bras tendu, le majeur glissé dans le pontet de son Colt Cobra. Un des flics présents reconnaît Ruby, transfiguré de haine. « Jack, fils de pute, non !»
Un coup de feu claque.
Mais c'est trop tard. Oswald s'écroule, une balle dans le corps. Un capharnaüm insensé se déclenche. On cherche un docteur, on bloque les sorties. On tombe sur Ruby, on téléphone pour une ambulance. On cherche à obtenir les derniers mots de l'agonisant. Un policier se penche sur Oswald. Y a-t-il une dernière chose que vous voulez dire? Non. Oswald lève le poing et fait le salut des révolutionnaires espagnols. Pour lui, c'est la lutte finale, en effet.
Oswald a tiré sur JFK, Jack Ruby a tiré sur Oswald. L'histoire s'accélère. Le lendemain, nous sommes le 25 novembre 1963, conférence de presse du chirurgien qui le 23 a essayé de sauver JFK et qui déclare que son assassin est mort à son tour.
Oswald died at 107 our time in the operating room of the gunshot wound which he had received.
Would you describe his last moments on the operating table,
please? Tic tac, ça y est, JFK et Oswald se sont rencontrés. Ils ont le même âge. L'un a 46 ans et l'autre 24. Mais en fait, ils ont tous les deux le même âge. Celui d'être mort à Dallas, Texas.
Behind the casket is Mrs. Jacqueline Kennedy. To her right is her brother-in-law, the Attorney General Robert Kennedy.
JFK a atterri dans son sacoche de plomb le soir du 23 novembre à Washington. Derrière lui, escorté par Robert Kennedy, son frère, Jackie, toujours vêtu de son tailleur rose taché du sang de son mari.
Vous avez affaire, ça aurait pu arriver dans une autre ville, à Miami ou ailleurs, à des gens mais sidérés, estomaqués, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont au cœur du cyclone. C'est un cyclone qui se passe dans la vie politique américaine et internationale. Le monde entier est à l'écoute de ce qui se passe à Dallas. Et pas seulement à Dallas, parce que pendant ce temps, Johnson, bon, il est monté dans l'avion, il a prêté serment, il prend le pouvoir et il essaie de rassurer son peuple et son pays. Donc tout ça est évidemment très lourd, passionnant, intense.
This is a sad time for all
people. Lyndon Johnson sur le tarmac de l'aéroport de Washington. Premier discours du 36e président des États-Unis. Tristesse, souffrance, perte irremplaçable, tragédie personnelle.
Le 28 novembre 1963, le New York Times rapportait que le nom de John Fitzgerald Kennedy avait été rayé du registre du personnel en tant que président, effectif le vendredi 22 novembre à 14h, heure de l'Est. Une autre mesure prit effet le vendredi 22 novembre à 14h, heure de l'Est. Lorsque le bureau de la comptabilité générale ajouta, le New York Times utilisa le terme « remplacé », le nom de Lyndon B. Johnson. Son salaire de vice-président, qui s'élevait à 35 000 dollars, tripla presque à cet instant. Et le lundi fut son premier jour de congé payé.
JFK, Made in America. Avec la romancière Catherine Pancol, l'essayiste Alexandra Zapruder, les journalistes Darwin Payne et Philippe Labrault, le romancier Anne James Chaton et le spécialiste du cinéma américain Jean-Baptiste Toré. Texte dit autour de JFK par Laurent Lederer, ceux d'Oswald par Renaud Bertin. Bibliographie complète sur la page de l'émission. Recherche INA, Véronique Jolivet. Traduction Eve Dair et Hélène Joguet. Documentation musicale Virginie Gresset. Prise de son Manu Couturier, mixage Manon Houssin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared. Post-scriptum. À bord d'Air Force One, le 21 novembre 1963, avant l'atterrissage à Dallas, Jack et Jackie.
Elle lui dit « je vais pas venir », elle lui dit « il faut que tu viennes parce que maintenant c'est sur le programme ». Donc ils partent en avion et il vient dans sa chambre de l'avion et il lui dit « ça va ?» Tu vas bien ? Et il essaie de lui parler, là. Et elle, elle reste sur la distance, puis elle est furieuse, quoi. Mais elle a envie quand même. Et elle lui dit, non, ça va, tu peux aller te coucher. Et le lendemain, il meurt, quoi.